L'interview que je vous propose aujourd'hui a été enregistrée juste avant que nous apprenions la fermeture des théâtres. La pièce qu'interprète Patrick Chesnay reprendra donc dès le déconfinement.
Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Avec l'âge, tout est écrit sur le visage, chante Alain Chamfort. Il raconte en effet beaucoup de guerres, de grands bonheurs et de larmes. Le visage désabusé et jamais dupe de Patrick Chesnay, avec ses pleins et ses déliés, ses valises sous un regard mi-soupçonneux, mi-amusé, où l'ironie sans cesse combat la mélancolie. Car cet homme intranquille a de l'humour, beaucoup, et un talent d'acteur prodigieux. Patrick Chesnay est tous les soirs sur la scène du Théâtre de la Madeleine à Paris pour la reprise d'une comédie qui a triomphé la saison passée, L'Invitation d'Adrien Racca avec Philippe Lelouch et Estelle Lefébure.
Europe 1.
Mais comme je suis heureuse de vous accueillir, Patrick Chesnay.
Merci.
Alors, cher Patrick, attention, on commence sérieux. Hein. Rabelais disait, j'ai connu tout, hors que moi-même. Diriez-vous comme Rabelais?
Et même,
devient-on acteur pour éviter de passer une vie entière avec soi?
C'est une bonne question, à multiples facettes. Je trouve qu'après avoir beaucoup voyagé, beaucoup d'aventures multiples et variées, artistiques et autres, c'est vrai qu'on peut se poser la question, je peux me poser la question de je connais tout, sauf moi-même. Enfin, peut-être moins bien. Quand je commence à me connaître un petit peu quand même, mais peut-être moins bien. Peut-être que c'est un territoire avec des zones comme ça, un peu inconnues parfois, que j'essaie de déchiffrer. C'est pas toujours facile.
J'en reviens quand même à cette première question. Devient-on acteur pour éviter de passer une vie entière avec soi? Parce que l'acteur, il a autant de vie qu'il a de rôle et incarne de personnages. La scène, c'est peut-être un magnifique pied de nez à la réalité. C'est du temps qui se rajoute, la scène. C'est du temps qui nous est offert en dehors des horloges. Faire de la scène ou du cinéma, est-ce que c'est pas l'évitement ultime?
Oui, c'est possible. C'est comme toute démarche artistique, je veux dire. On est en dehors de peut-être du réel pour créer quelque chose qui appartient au réel, mais qui est un peu différent, qui est un peu sublimé, qui est un peu exacerbé, où ça passe par le rire ou par l'émotion. On se sert de l'aventure humaine, de ce que sont les gens, de ce qu'ils vivent, pour le transformer en faire un art de la scène ou un art du film, ou raconter l'histoire des humains, quoi.
Alors, c'est amusant parce que je vous ai un jour entendu dire quand on joue, en fait, on est traversé par plein de pensées. C'est surprenant de l'avouer. Donc, on n'est jamais tout à fait l'autre, tout à fait celui qu'on doit incarner.
Oui, c'est-à-dire que, par exemple, hier soir, c'était la première fois que je jouais depuis la reprise. Je pensais plutôt à qu'est-ce que je dis après, là, il faut que j'aille là, etc., tout en jouant le personnage. Quand on le joue depuis un certain temps, qu'on a une certaine habitude, il est vrai qu'on peut, certains soirs, penser à ses impôts, au rendez-vous qui s'est pas très bien passé l'après-midi,
c'est
au contraire
Michel
bien
Simon
passé.
C'est Michel Simon qui avouait ça.
Voilà, c'est par comme ça, par
par fulgurance,
par flash, par fulgurance. Ouais. Oui. Et puis après on revient. Mais enfin, on peut. Oui, il peut y avoir des.
Alors, vous évoquez l'invitation. Effectivement, la situation et les personnages de cette comédie d'Adrien Racca, manque pas de sel. Vous reprenez au Théâtre de la Madeleine à Paris cette pièce qui a eu un énorme succès la saison passée. Faut nous en livrer le propos. Patrick Chesnay.
Le propos, vous savez, moi je cherchais une pièce sur un mec qui ment. Et vous savez, c'est un genre, le mensonge au théâtre.
Ouais,
et
ouais.
C'est un genre très excitant. J'avais déjà joué avec La Vérité de Florence Zeller et je ne trouvais pas La Vérité, les droits étaient ailleurs. Bon. Et c'est là où on m'a proposé, le producteur, Gardien de Malheur, Philippe Lelouch, proposé cette pièce que j'ai lue, et c'est vrai que c'est un mec qui ment pendant une heure et demie, donc c'était plutôt ce que je recherchais. La pièce a une vertu comique incroyable, quoi. C'est une bombe atomique de rire, chaque moment, chaque phrase déchaîne des vagues de rire. Donc ça,
le pitch, il fallait résumer.
Alors, le pitch, c'est un type qui trompe sa femme qu'il aime profondément, mais il la trompe quand même. C'est un classique, hein. Et pour des raisons multiples et variées, mais enfin, il aime sa femme, il dit que c'est la femme de ma vie, que s'il perd sa femme, il perd sa vie.
Oui.
Donc il est obligé d'inventer un meilleur ami qui n'existe pas pour dire le soir je vais voir ce meilleur ami qui est totalement déprimé, il a besoin d'aide, etc. Parce que sa femme l'a quitté, etc. Voilà. Et sa femme lui dit, invite-le, que je fasse connaissance, invite-le ce soir. Donc il est invité de trouver un ami qu'il ne trouve pas, il trouve un mec qui rôde dans un bar en bas de chez lui, il le ramène, c'est un gogol terrible, et tout va être... C'est un peu... Moi, cette pièce me fait penser un peu d'une autre façon au Dîner de cons, vous savez.
Oui, c'est ça, de Francis Weber.
Voilà, Francis Weber.
Et puis il y a aussi une mécanique familière à celle des pièces de Feydeau.
Oui, c'est ça. Oui. Ah bah, c'est une succession de quiproquos. C'est-à-dire, ce type qui l'introduit chez lui pour être soi-disant son meilleur ami est au-delà du. Comment dire du... C'est un abruti total.
Oui, parce qu'il le choisit par hasard dans le bar.
Qui a plein de bonnes intentions, mais qui les fait toutes. Et
de
voilà,
la rue,
et
de, voilà.
On va la situation s'enlise dans des sommets de folie et de burlesque, oui.
Sur le papier, c'est l'idée parfaite, idéale, ultra pratique. L'invention de l'ami, donc alibi. Et puis dans la réalité, ça va se révéler, pour le bonheur des spectateurs, un cauchemar. Avec l'invitation, on assiste au début inattendu mais convaincant. Oui. D'une femme qu'on ne connaissait pas comédienne, Estelle Lefébure. En fait, Estelle Lefébure, on l'avait vue une seule fois au cinéma dans le film de May Wen, Le bal des actrices, mais jamais sur une scène de théâtre.
Oui.
Vous l'avez coachée pendant les répétitions ?
Non, assez peu. En tout cas, moi, non. Bon, il y a un metteur en scène. Hein. Non, simplement, j'essayais de la mettre à l'aise, de la rassurer, de sentir qu'il y avait de la bienveillance autour d'elle et que c'était la meilleure façon de l'aider. Mais elle est très très bien, elle fait très bien. Oui. Elle a déjà tourné un peu dans des téléfilms ou au cinéma un petit peu.
Mais donc, théâtre, c'est un exercice différent.
Donc c'est un exercice difficile. Hein, la première fois de se jeter comme ça dans la cage au lion.
Surtout qu'elle a un monologue.
Elle a un grand monologue sur la condition féminine et sur les femmes et les hommes, qui était très très beau, d'ailleurs très bien écrit, et voilà. Non, c'est une pièce qui donne beaucoup de... Les gens rient beaucoup, quoi. Les gens... Toutes les réflexions que j'entends, ça fait tellement du bien de rire. C'est vrai qu'il y a un rire constamment pendant une heure et demie. On a l'impression que c'est une cascade de rire qui ne s'arrête jamais. Donc c'est quand même très agréable quand on est acteur. Et puis ce qui prouve aussi la force et l'efficacité de la pièce, oui.
C'est en compagnie de Patrick Chesnais qu'on se balade cet après-midi et c'est formidable. Vous êtes sur Europe 1, vous y êtes bien. On fait une pause très très courte et on retrouve tout de suite Patrick Chesnais.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. Isabelle Morizet.
Cet homme intranquille est un acteur prodigieux. Sa maison, en ce moment, est le Théâtre de la Madeleine à Paris, où il joue une comédie qui déjà a triomphé la saison passée, L'Invitation. J'ai le bonheur de recevoir Patrick Chesnais. Alors, cher Patrick Chesnais, votre toute première expérience de théâtre correspond à une punition. Ça n'a pas calmé votre vocation, hein, mais tout de même, une punition, faut nous raconter.
Oui, j'étais tout petit, hein, j'avais 7 ans, et j'avais vu les fourberies de Scapin avec la classe, et j'ai voulu, en rentrant chez moi, réécrire la fourberie de Scapin, la fameuse scène du sac, et voilà. Et avec
à 7 ans, réécrire
oui, 7 ans,
une des scènes.
Oui, réécrire, absolument. J'écrivais avec des grosses pattes de mouche. J'écrivais cette scène culte de Molière, la fameuse scène du sac, où ma cousine était engagée pour jouer Géronte. Alors ça se passait bien en répétition. On était tout petits, on était gamins, on balbutiait, mais ça se passait bien. Et le jour de la représentation, c'était une réunion de famille avec les cousins, tout ça. Et c'est un peu dégonflé, quoi. Elle n'a pas envie de... Et là, je suis devenu fou. Fou de rage, et je suis sûr rentré dedans. Vous savez, comme les gamins.
Carrément,
ça fait un mois qu'on répétait pour cette fameuse... Au dernier moment, elle se dégonflait. Et du coup, j'étais puni. Ouais, j'étais puni pour... j'étais puni. J'ai dû rester dans ma chambre. Et... Donc, si vous voulez, ma première expérience théâtrale avortée correspondait à une punition.
Voilà, mais ça n'a pas calmé
votre
passion. Voilà, alors quand on demande à son père bricoleur de construire dans sa chambre d'enfant une scène de théâtre, qui mange, paraît-il, la moitié de la pièce avec une rampe, des rideaux, un projecteur, et qu'on fait venir ses copains d'école pour assister, en payant l'entrée, hein, je précise, au spectacle qu'on imagine, c'est qu'on a déjà choisi sa vie sans le savoir, non ?
Oui, sans le savoir, parce que moi, vous savez, j'étais en province, à Rouen, et tout ça, c'était un peu pour moi des trucs très lointains, des trucs de Parisiens. Le cinéma, la télé, le théâtre paraissaient un truc à la capitale, là-bas, très loin. Et moi, je faisais ça parce que, oui, je crois que j'aimais ça. J'aimais bien jouer, réunir des gamins, mettre en scène, se filmer, parce que j'avais une petite caméra. Et voilà, mais ça me paraissait totalement inenvisageable d'en faire un métier, quoi. Ça me paraissait pas un métier fait pour moi, en tout cas.
Votre maman, Patrick Chesnais, avait suivi des cours de comédie avec un sociétaire de la Comédie-Française, hein, Georges Chamara.
Oui, Georges Chamara.
Donc j'imagine que... Elle était enchantée de votre fibre artistique, si votre père, lui, était inquiet.
Oui, elle comprenait très bien. Et ses parents l'avaient empêchée, parce qu'à l'époque, faire de l'actrice, c'était pas très bien vu en province, comme ça. Mes parents étaient inquiets, oui, surtout que j'étais très mauvais à l'école, et puis mon frère avait fait beaucoup de bêtises, qui était mon aîné.
Donc il fallait à tout prix les rassurer, quoi.
Et le fait que je m'intéresse au théâtre, c'est plus que ça, que je me passionne pour ça, etc., les a rassurés énormément, oui. J'étais pas sur la mauvaise voie de la délinquance, ou de faire des conneries, de rien foutre du tout, etc. Je me passionnais pour quelque chose.
Mais alors, vous dites, j'ai grandi à Rouen. En fait, c'est votre maman qui vous emmenait... au Théâtre des Arts, à Rouen, voir les comédies de Guitry, les pièces de Molière, le théâtre de boulevard d'André Roussin, et puis plus tard, la Ménagerie de verre de Tennessee Williams, que vous avez tant aimé.
Non, mais...
Ou le Journal d'un fou de Dostoïevski.
Gogol, oui. Non, mais j'y allais pas avec ma mère, j'y allais tout seul. J'avais 16 ans, ou 16 ans et demi, ou 17 ans. Je pouvais aller tout seul au théâtre, ce que je faisais avec des copains. On avait des abonnements et on allait au Théâtre des Arts à Rouen, voir... Il y avait deux pièces par semaine, une pièce plus d'auteur, plus théâtre public, puis une pièce plus grand divertissement, grand public. Et je me repaissais de ça, et j'étais en admiration devant les pièces, les acteurs, les décors, les machins de ça. Ouais, je prenais mon pied.
Mais alors, vous nous avez dit que vous étiez effectivement pour un très bon élève, à Léon. Comme ça, je me moque un peu, vous me pardonnerez, je vais dire presque un élève assez pathétique, parce qu'il paraît qu'à l'âge de 16 ans, vous étiez encore en quatrième, n'est-ce pas ?
Exactement.
Bon, ça, il faut parvenir à le faire, mais
c'est
bon,
du boulot, hein.
Ça n'avait aucune importance, puisque vous aviez le feu en vous, l'espoir. Et alors, j'ai appris que vous étiez très doué au foot, si vous n'y étiez pas en classe. Vous jouiez au FCR, et vous pensiez, c'était peut-être un rêve plus facile à réaliser que devenir acteur, vous pensiez devenir, quand vous étiez ado, footballeur professionnel. Alors pourquoi un matin, vous réveillant, vous êtes-vous écrit de votre chambre « Ça y est maman, je sais ce que je veux faire.
Oui,
je sais, je veux être acteur. »
Oui, mais quand je dis le footballeur rêve à réaliser, je suis pas... Non, je pensais que c'était très difficile. Être footballeur de haut niveau, et, si vous voulez, je m'étais rendu compte que mon remplaçant dans l'équipe du FCR, de l'équipe des cadets, des minimes et tout ça, le mec qui me remplaçait, je le trouvais meilleur que moi. Donc c'est déjà mal barré, parce qu'il faut vraiment faire son trou dans le football.
Non, mais surtout pour être un winner, il ne faut pas être trop modeste.
C'est compliqué. Ah oui, mais ça m'est apparu comme une évidence. Et je ne sais pas, un jour je me suis réveillé, je me dis, bon Dieu, mais oui, mais c'est bien sûr. J'avais un théâtre dans ma chambre, j'avais tout, je faisais l'acteur avec des copains, etc. Donc ça m'est apparu évident, c'était ça quoi, c'est pas autre chose.
C'était ça. Alors, dans la foulée de cette révélation, un copain de collège vous a parlé des cours d'art dramatique au Conservatoire de Rouen, et vous y êtes présenté.
Oui.
Alors, Musset, Marivaux, Shakespeare, Dostoïevski sont entrés dans votre vie, Patrick Chesnais ?
Oui, absolument. Moi qui étais un très mauvais élève et qui avait une culture minimum, on va dire. Enfin, j'avais des parents qui s'intéressaient à beaucoup de choses, mais brusquement, je me suis passionné pour... je me suis gavé de Shakespeare, de Molière, de Marivaux. J'ai tout lu. Brusquement, j'ai découvert un monde que je ne soupçonnais pas, qui m'était étranger jusqu'ici, que... voilà, ça m'a nourri, ça m'a habité. Je me suis dit, je ne vais jamais les quitter, ceux-là. Je ne vais jamais les quitter, les Shakespeare.
Mais c'est peut-être votre prof de français.
Toute la bande, là.
C'est peut-être votre prof de français au collège qui, soudain, a été ébloui par le renversement de situation. Et il s'est dit, vous voyez en lire Shakespeare, vous voyez en lire Musset. Non, vous n'avez pas quitté l'école à ce moment-là.
Non, j'avais pas quitté l'école. Non, bien sûr. Ouais. Mais j'ai quitté puisque j'ai fait l'école buissonnière.
D'accord.
C'est-à-dire qu'un jour j'étais condamné à 1000 lignes. parce que j'ai été, parce que je lisais les fables de La Fontaine justement pendant le cours de maths, bon, ça se fait pas. Donc 1000 lignes, je ne lirai pas les fables de La Fontaine pendant le cours de mathématiques. Et j'en avais fait le samedi, je devais rester de 2h à 7h avec une tendinite parce qu'il faut vraiment l'écrire, hein, les 1000 lignes, c'est beaucoup. Hein. Et il manquait donc 320 lignes, quelque chose comme ça. Et le tarif à l'époque, c'était le nombre de lignes qui n'avaient pas été rendues, multiplié par 7, à rendre le lundi matin. Donc 7 fois 3, ça faisait 2000 plus 2400 lignes, disons. Et quand le mec m'a dit ça, le pion m'a dit, voilà, vous avez fait 700, donc il manque, multiplié par 7. Donc lundi 9h, 8h, il me faut 2400 lignes. Et au moment où il me disait ça, j'ai compris et j'ai senti que je ne serais pas là le lundi. Et que c'était la fin de ma scolarité.
Et le début d'une autre vie absolument éblouissante. Allez, on fait une très très courte pause et on retrouve tout de suite Patrick Chesnais. L'interview que je vous propose aujourd'hui a été enregistrée juste avant que nous apprenions la fermeture des théâtres. La pièce qu'interprète Patrick Chesnais reprendra donc dès le déconfinement.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. Isabelle Morizet.
Patrick Chesnais reprend au Théâtre de la Madeleine à Paris l'invitation de Adrien Racca qui a vraiment triomphé la saison passée, cerné sur scène par Philippe Lelouch et par Estelle Lefébure. Et cet après-midi, eh bien voilà, on refait le monde ensemble et puis surtout on agite les souvenirs. Patrick Chesnais, c'est bien votre professeur au Conservatoire de Rouen qui... Après vous avoir vu passer une scène pour un concours, une scène que vous redoutiez d'ailleurs, mais avec laquelle vous avez fait un triomphe, c'est bien ce professeur donc qui, après un long silence, s'est exclamé de temps en temps, mais c'est rare, il arrive qu'on tombe sur quelqu'un dont on se dit « Ah, celui-là, il va faire une grande carrière ». Et bien c'est le cas avec Patrick Chesnais. Vous aviez quel âge quand vous avez entendu ce prof dire ça?
J'avais 16 ans et demi exactement, même pas. Et c'était Jean Chevrin, oui, qui nous a quittés depuis un bout de temps et qui m'a ouvert des horizons, qui m'a ouvert la porte à plein de choses et que je ne remercierai jamais assez. Et d'ailleurs, tous les élèves qui sont passés, comme Annie Dupéret ou d'autres dans la classe de ce professeur, lui sont extrêmement reconnaissants. Il avait quelque chose de... incroyablement humain et drôle et encourageant. Et non, c'était un type bien.
Et il a pris beaucoup d'initiatives, puisque vous dites Jean Chevrin, donc ce professeur à Rouen, a convoqué vos parents, n'est-ce pas ? Il tenait absolument à leur parler. Vous savez ce qu'il leur a dit ? Quels ont été ses mots ?
À peu près, il leur a dit il faut le laisser faire. Là, il y a un truc qui se passe, il ne faut pas hésiter, quoi. Quelque chose dans ce goût-là.
Ouais. Alors, toute la famille Chesnais est partie... en repérage à Paris pour savoir où le fiston allait poser ses valises, parce qu'en fait, ce qu'il voulait, votre professeur à Rouen, c'est que vous passiez le concours d'entrée du conservatoire à Paris.
Oui, absolument, oui.
Mais à 16 ans et demi, catapulté à Paris, en fait, vous êtes arrivé où ?
Oui, un peu plus tôt. Non, j'étais dans l'appartement de ma grand-mère, à la Garenne-Colombes.
D'accord.
Et j'étais... Oui, je suis rentré au conservatoire tout de suite. Je suis même rentré, je crois, le Benjamin, avec une dispense, parce que j'étais jeune. J'étais 18 ans, j'avais un peu moins, je crois. De toute façon, quand je suis arrivé au conservatoire, j'ai été pris. Je ne revenais pas d'être pris, vous savez.
Oui, dès la première tentative, le premier tour, vous étiez accepté.
Oui, la première année, ça, il y a 3 tours.
Oui.
Donc à chaque fois, il y a 1000 élèves qui se présentent et à la fin, il en reste 20-30 par là. Donc il y a vraiment une sélection. Et moi, je n'en revenais pas d'être pris parce que je voyais toutes ces belles filles, là, ces mecs qui parlaient de théâtre, qui avaient l'air tellement au courant de ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait penser, de tout ça, que je dis, mais c'est pas grave que eux ne soient pas pris, que moi, si. Bon, enfin voilà. Donc je me suis... petit à petit familiarisé avec Paris et ses habitants. C'est vrai, quand on arrive de province et qu'on a ses petites habitudes, j'avais ma petite amie là-bas, j'avais un club de jazz, j'avais mon équipe de foot, j'avais mes parents, j'étais chez mes parents, mes copains, tout ça.
Elle était jolie, la bulle.
Elle était jolie, la vie en province. C'était agréable, c'était bien. Puis je découvrais le monde. Moi, j'avais des yeux comme ça écarquillés sur le monde en général. Et brusquement, boudaboum, tout seul à Paris. Puis la compète est dure, hein. Conservatoire, c'est pas toujours...
Alors la compète est dure, mais dites donc, vous êtes sorti avec un premier prix de comédie du conservatoire.
Oui, à l'époque.
Quel était votre registre, Patrick Chesnais ?
Ah bah, c'était surtout la comédie, oui.
Oui, mais je veux dire, vous jouiez, alors, dans la comédie, il y a quand même pas mal de profils dans la comédie.
Oui, bah, là c'était... pour simplifier, jeune premier comique, jeune premier fantaisiste. Hein, un peu jeune premier quand même. Et beaucoup fantaisiste, beaucoup comique, enfin, oui.
Vous parlez de fantaisie. Vous avez toujours pris un malin plaisir à amener justement de la fantaisie dans les pièces sérieuses et à jouer très sérieusement les comédies. Ça, c'est une botte secrète.
Ben, ça, c'est un mot de Louis Jouvet qui disait, oui, c'est ça, il faut jouer les comédies comme si c'était des drames et les drames comme si c'était des comédies. C'est le même qui disait, il faut mettre un peu de vie dans son art, un peu d'art dans sa vie.
Voilà. Bon, traditionnellement, un premier prix de conservatoire débute directement sa carrière à la Comédie-Française. Or, l'administrateur de l'époque, Maurice Escande, trouvait votre jeu trop moderne. Il vous l'a reproché, il ne vous a pas accueilli aux Français.
Oui.
Mais il vous a promis une très belle carrière au cinéma. Mais ça reste un regret de ne pas avoir joué les grands textes sur la scène du français, quand même, à cause d'un seul homme.
Non, mais vous savez, j'ai eu mon premier prix, j'ai été... Puis à l'époque, c'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire les concours de conservatoire étaient un événement parisien très fort, comme les Césars, voire presque le Festival de Cannes. Il y avait tout Paris qui était là, les médias, tout le Paris artistique. Et, bon, et moi, j'ai eu mon premier prix, j'ai la première page de Figaro, photo, le soir, j'étais au journal télévisé, etc.
Mais dis donc, Rouen, ça a dû être une petite révolution.
Ah ben là, Rouen, c'était le roi de la piste. Hein. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est que l'importance du concours du conservatoire, c'était, voilà, comme tout l'année d'après ou un mois après, on avait oublié, puis ça ne servait pas à grand-chose. Mais au moment où ça se passait, il y avait une espèce d'effervescence comme ça, parisienne, chacun misait son cheval, et, etc. Donc
vous deviez quand même arriver directement sur la scène de la Comédie-Française et l'administrateur de l'époque, Maurice Escande, a dit non, il est trop moderne.
Voilà, il me disait que j'étais un peu trop moderne, que j'allais trouver ma voie sûrement sur les boulevards ou au cinéma, que j'allais m'embêter aux Français, on me confierait plus tard. Bon, j'étais d'accord.
Et les choses se sont en fait enchaînées très facilement grâce au premier prix.
Alors, je ne sais pas si c'est grâce au premier prix. Vous savez, le premier prix, c'est un coup de projecteur du moment, puis ça fait bien sur sa... Enfin, et maintenant, c'est fini, les prix, donc...
Oui.
Ça fait bien sur sa
carte. C'est dommage, d'ailleurs, qu'il n'y ait plus de prix remis au conservatoire.
Bah, c'est dommage, parce que je crois que... Oui, justement, à cause de ce que je vous dis. C'est-à-dire, tout ça, maintenant, se passe, à tort ou à raison, dans une espèce d'anonymat poli. D'abord, c'est plus des concours, ce sont des journées. Puisqu'il n'y a plus de concours. C'était un métier où, paraît-il, il n'y a pas de concours. Moi, je veux bien, mais enfin, c'est le métier où vraiment la concurrence
est terrible.
Et donc, ça se passe dans une espèce de silence, d'anonymat, de bien-pensance, où il y a des metteurs en scène qui viennent, s'exercer. Tout ça, il y a des choses intéressantes. Hein. Je ne dis pas qu'il y a des choses même formidables. Mais enfin, il n'y a plus cet événement parisien...
C'est une célébration, il y avait un rayonnement.
C'était un rite comme ça, annuel, un rendez-vous important parisien. Bon, tout ça est éphémère et tout ça est peut-être pas très important.
Mais ça fait une jolie rampe de lancement quand même.
Bah, c'est un coup de projecteur, puis vous, ça vous donne des ailes. Alors après, il y a la carrière à faire, c'est autre chose. Hein. Mais enfin, ça fait du bien à l'ego et tout ça. Et les parents sont rassurés. Et disent, ah oui, quand même. Et puis vous avez vos articles dans les journaux, vous passez au journal télévisé, on vous demande votre avis. C'est impressionnant.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h-16h avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Il y a les amis d'enfance, les amis de boulot. Et il y a... parfois, lorsqu'on est un homme infidèle, eh ben, il y a l'ami alibi, imaginaire. Voilà, celui que dans la précipitation, on invente pour tromper son épouse sans éveiller ses soupçons. Ainsi démarre la comédie absolument irrésistible que joue Patrick Chesnais au Théâtre de la Madeleine à Paris, avec Philippe Lelouch, qui a assuré la mise en scène, et avec Estelle Lefébure. Et cet après-midi, on se balade en compagnie de Patrick Chesnais. Alors, cher Patrick, Claude Lelouch, dont vous avez été très très proche à une période de votre vie, Claude Lelouch, un jour, vous a confié « J'adore les acteurs, parce que les acteurs sont malheureux ». Est-ce qu'ils le sont par essence ?
Non, je pense que les acteurs peuvent être doués pour le bonheur aussi. Ils peuvent créer des instants de bonheur. Ils recherchent des moments de félicité dans sa vie intime ou professionnelle ou dans la vie en général. Et à force de le chercher, d'essayer de le créer, il y a un moment où on le trouve. Alors ça peut être plus ou moins éphémère, mais à force de chercher, on trouve. Et ils peuvent être doués pour créer des moments-là, des moments en dehors des lignes, en dehors des normes, et qui peuvent être... Mais évidemment, ça ne dure pas, c'est sûr.
Vous dites, avant 40 ans, on joue, après, on est. La différence entre deux acteurs de même niveau, c'est l'homme.
Oui, 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 absolument, oui. Je crois que deux acteurs, disons, doués à peu près de la même manière, ce qui fait qu'on les aime plus ou moins, qu'on les apprécie, ou qu'on les... c'est ce qu'ils sont eux, les acteurs. Nous, les acteurs, on joue avec ce qu'on est. On joue ce qu'on est.
Selon vous, Patrick Chesnais, les acteurs aujourd'hui joueraient mieux qu'il y a 40 ans. Voilà, ils ont un jeu peut-être plus affiné, plus subtil. Et vous faites la comparaison d'ailleurs avec le foot qui, lui, est aujourd'hui plus rapide, plus technique.
Oui, c'est vrai, j'ai oublié que j'avais dit ça, mais c'est vrai, je trouve que plus ça va, plus le jeu, je parle en France, s'affirme dans... Il y a quelque chose de plus profond, de plus vrai. Je pense qu'il y a un exercice. Vous savez, les acteurs sont les reflets des humains qui font la société. Il y a quelque chose qui se perfectionne au fur et à mesure des années, des décennies, je crois. Il y a moins de... Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est vrai que la comparaison avec le football... le football,
elle est assez efficace.
C'est de plus en plus fort, de plus en plus technique, de plus en plus rapide. Quand on voit un match il y a 20 ou 30 ans, on a l'impression qu'on a mis sur ralenti. Quoi.
Exactement. Voilà, mais alors, si je vous suis, on va dire qu'il y a par exemple de grandes scènes cultes au cinéma qu'il vaut mieux ne pas revoir 40 ou 50 ans plus tard.
Non, parce que c'est le témoignage d'une époque, de quelque chose, d'acteurs qu'on a aimés, etc. Et non, il y a aussi des moments très des acteurs sublimes à toutes les époques. Hein. Mais il y avait une façon, je crois, d'aborder le jeu, la comédie, un peu différente, un peu, c'est peut-être
dans
un peu surjoué,
il
fallait vraiment imposer aux gens qui comprennent bien que c'était comme ça. Que... Alors que là, effectivement, il y a plus de subtilité sûrement.
Au cinéma...
De vérité, en tout cas, de vérité.
Oui, voilà. Au cinéma, la caméra qui a l'œil absolu vous vole des choses. Au théâtre, au contraire, le comédien doit les projeter. Un bon comédien peut être un mauvais acteur. Et inversement, ça arrive, ça. Des gens qui sont prodigieux sur scène, qui ne laissent pas suffisamment lorsqu'ils sont... sur un tournage, la caméra venir chercher ce qu'ils ont en eux.
Oui. Peut-être qu'il y a des gens qui... sont plus doués pour la projection dramatique dans un certain type de théâtre et qui ne se réalisent pas au cinéma. Leur endroit, leur lieu où ils peuvent s'exprimer, c'est le théâtre, un certain type de théâtre qui passe par peut-être un style ou quelque chose qui n'est pas forcément dans la vérité, mais dans une espèce de théâtralité qui peut être très, très, très belle et très forte. Hein. Et du coup, au cinéma, on a besoin de la vérité absolue. Mmh. Ça marche plus, ou moins.
Alors Patrick Chesnais, finalement, c'est par le cinéma ou par le théâtre que vous avez le sentiment, vous, d'avoir été le plus gâté ?
Ben, je sais pas. Peut-être le théâtre, quand même. J'en sais rien. Je sais pas. J'ai été gâté en même temps... J'ai l'impression qu'il y a encore plein de choses à déguster. Quand vous disiez tout à l'heure qu'après 40 ans, on ne joue plus, voilà, maintenant j'ai plus de 70. et je suis de plus en plus dans ce que je suis, quoi. Je pense que je peux... Justement, ne pas jouer, mais créer des personnages, incarner des personnages de plus en plus... c'est pas intensément, je sais pas comment dire exactement. Alors, bon, faut que je me dépêche parce que, voilà, mais...
voilà. Mais qu'est-ce qu'il raconte? On parle théâtre, on parle cinéma, mais il faut tout de même pas oublier la télévision qui n'a pas été en reste avec vous, puisque elle a fait de vous, et c'est vous, en fait, qui l'avez incarné, mais De Gaulle, dans un docu-fiction très convaincant, signé Serge Moati. Pourquoi départ étiez-vous réticent? Il paraît que vous avez presque refusé dans un premier temps.
Non, c'est parce que je trouvais ça étrange qu'on me propose De Gaulle. Donc j'ai tenu à passer des essais. J'ai voulu
vous avez exigé de passer des essais.
Enfin, exigé, j'ai demandé. Voilà, devant un staff de Serge Moati et de ses assistants, je ne sais pas qui, mon agent, je ne sais pas. Et puis j'ai joué une ou deux scènes... Et j'ai senti que je pouvais le faire.
Parce que là, on est dans la composition totale. On disait après 40 ans, on est, mais là, il ne s'agit pas d'être, il s'agit d'incarner une autre grande stature.
Mais voilà. Comme je dis tout souvent, quand on joue comme ça des personnages historiques que les gens connaissent à travers la télévision, c'est à la fois, il faut incarner un personnage, Ça, c'est le boulot de l'acteur. Et en même temps, il faut de temps en temps, pas toujours, être dans l'imitation, dans le tic qu'il peut avoir, certaines façons de parler, de, le port de tête, tout ça. Ça, c'est le job de l'imitateur. Donc, c'est à mi-chemin entre les deux, quoi. Et c'est entre l'incarnation et l'imitation, c'est les deux en même temps, d'ailleurs. C'est pas à mi-chemin. Et c'est ça qui est excitant à faire dans ce genre de...
Patrick Chesnais, votre père, qui était dans la Résistance, disait « Je ne suis pas gaulliste, je suis pour De Gaulle ». Donc, il y a dû y avoir quand même une sacrée mise en abîme pendant ce tournage.
Je pensais beaucoup à mon père, oui. Je pense qu'il n'était plus là, mais il aurait été fier et honoré que je joue De Gaulle. Parce qu'il a une grande admiration pour De Gaulle, parce qu'il s'est évadé plusieurs fois enfin, pendant la guerre. Il voulait rejoindre De Gaulle en Angleterre, c'était ça l'idée.
Oui.
Bon, il n'y est jamais arrivé. Et donc, lui qui était plutôt socialisant, à gauche, voilà, il votait, quand De Gaulle est revenu au pouvoir, pour De Gaulle tout le temps. Et il disait, moi je suis pas gaulliste, c'est-à-dire de la famille idéologique, politique de Gaulle, mais je suis pour De Gaulle, pour le général. Donc ça, faut pas m'emmerder avec ça. Arrêtez de m'emmerder avec ça, moi je suis pour De Gaulle, et voilà.
S'il avait su que son fils l'incarnerait. Alors Patrick Chesnais, vous dites... Un acteur qui prend sa retraite, c'est mauvais signe. Mais en fait, ça n'existe pas, un acteur qui prend sa retraite.
Bah, c'est-à-dire que non. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, on a le droit à toucher une retraite. Voilà, c'est ça un acteur.
Mais aucun acteur ne prend sa retraite dans le sens réel.
C'est-à-dire qu'on prend l'argent de la retraite. Qui tombe à 60 ou 65 ans, je ne sais plus. Mais on continue, oui, on continue jusqu'à max. Comme tous les créateurs, que ce soit les musiciens ou les peintres, on continue jusqu'à ce que...
Les compositeurs.
Compositeurs, les écrivains. Alors on fait ça avec plus ou moins de bonheur ou d'inspiration. Ou de, voilà, et puis après, il y a l'âge qui intervient, je ne sais pas. Voilà, mais enfin, en tout cas, on va jusqu'au bout, quoi, c'est sûr.
On retrouve tout de suite Patrick Chesnais.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h, avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Patrick Chesnais, vous parlez à Ferdinand, votre fils de 20 ans, fauché en 2006 dans un accident de voiture. Vous lui parlez ?
Ah oui, oui. Oui, oui, ou c'est lui qui me parle, ça dépend. Je lui parle quand je vais le voir toutes les semaines au cimetière. Et puis, de temps en temps, il vient me visiter. La nuit dans mes rêves, ou alors parfois des moments comme ça où je me dis tiens, il est pas loin là. Où je sens sa présence et ça fait du bien, on échange, même parfois sans parler. Hein. Voilà.
Vous dites que depuis cette tragédie, l'amour que vous portez aux autres s'est modifié. Il est devenu plus violent, plus urgent.
Oui, c'est-à-dire que quand on perd un enfant. J'espère, je crois, en tout cas, que quelque chose se modifie dans votre rapport aux autres. Même s'il y a une colère, parfois, pourquoi lui ? Pourquoi à 20 ans ? Pourquoi lui, qui était un type bienveillant, généreux, et pourquoi pas d'autres, qui le sont un peu moins ? Mais on est plus en empathie avec le reste du monde, avec la douleur du monde, avec la souffrance des hommes. On fait plus attention, on est plus... On est plus, comment dirais-je, attentif. Oui, quelque chose se modifie, c'est sûr.
On prend la mesure de l'éphémère, c'est ça ?
La mesure de l'éphémère, oui, oui, on se rend compte qu'on est précaire. La vie humaine est précaire, hein, de toute façon. Mais notre vie est précaire, elle peut s'arrêter dans un quart d'heure, comme dans 30 ans. Mais voilà, on vit toujours avec cette chose. Et quand on l'a fréquentée de près, comme moi, parce que quand on a un enfant qui... C'est-à-dire que le concept, pour employer un mot à la con, de la mort, vous arrive en pleine gueule. On se dit, ah oui, c'est pas loin, là. Là, c'est plus que pas loin, c'est pire que si c'était moi.
Ferdinand, il était passager d'une voiture conduite par un chauffeur ivre,
oui.
Qui avait donc pris le périphérique à l'envers.
Oui.
Dans les mois qui ont suivi la disparition de votre fils, Patrick Chesnais, vous avez créé l'association Ferdinand qui réalise, et je crois à présent maintenant, partenariat avec Vinci Autoroute, qui réalise des films de prévention contre l'alcool au volant. Ouais. Et Guillaume Canet, Éric Toledano et Olivier Nakache en ont réalisé. Le dernier est signé Jean-Paul Rouve, c'est ça ?
Non, il n'a pas encore fait. Non, il devait le faire.
Il devait.
Oui, oui, ils devaient le faire. Alexandre Astier aussi, ils ont envie de le faire. Et puis, et c'est des gens qui travaillent beaucoup. Donc, comme ils veulent faire les choses bien, donc on s'oriente vers... On va voir, on va voir.
Voilà. Mais vous travaillez, de toute façon, de façon assez étroite, en collaboration, vous dites, avec Vinci Autoroute, oui, pour oui, la mise en place de films de prévention
oui, c'est
qui
ça.
Sont
c'est
diffusés...
En fait, pour eux, c'est important. Ça fait partie de leurs préoccupations, la sécurité routière, bien sûr. Et donc, oui, c'est eux qui me donnent les moyens de produire des films. On essaie de faire des films de cinéma, des petites œuvres cinématographiques courtes. Donc, ça demande, même si les gens font ça bénévolement, bien sûr, ça demande quand même de l'argent.
Ouais.
Et l'argent, c'est Vinci Autoroute qui nous le procure de façon à réaliser les meilleurs films possibles.
Diffusé à la télé, diffusé sur
cinéma.
Plein de supports,
oui,
au cinéma.
Oui, au cinéma, en avant-première du film Gaumont, UGC, tout ça, oui, on a fait. J'ai fait la démarche, voilà, je vais faire tous les bureaux des grandes multinationales, nationales, des grandes chaînes médiatiques, France Télévisions, etc. etc. Enfin.
Alors, Patrick Chesnais, Ferdinand, il a un petit frère qui aujourd'hui a 17 ans, il s'appelle Victor. Bon, je vais vous dire que vous n'êtes pas le plus jeune des papas.
Non.
Vous m'en voudrez pas. Mais je voudrais savoir comment vous engrangez les souvenirs avec Victor. Quels sont les centres d'intérêt communs? Victor, il s'intéresse au théâtre, au cinéma ou il est ailleurs?
Non, non, il s'intéresse beaucoup au cinéma, au spectacle vivant, comme on dit en ce moment. Oui, c'est un... Depuis tout petit, il va avec sa maman ou avec moi de temps en temps voir des spectacles de toutes sortes, des spectacles musicaux, des ballets, des pièces, beaucoup de films bien sûr, des films Hitchcock en VO, etc. Donc c'est un petit parisien très... voilà, très cultivé, je ne sais pas si c'est le terme, enfin en tout cas qui...
Curieux de mille choses.
Curieux, qui connaît plein de choses, qui voit plein de choses, oui. Il s'intéresse au foot énormément aussi, je l'emmène au Stade de France ou au Parc des Princes.
C'est dans l'ADN familial. Hein.
Bah oui, oui, bah, oui, ce n'est pas encore isolé, hein, autour de lui, à tous ses potes. Ouais, ouais, s'intéresse au foot, bien sûr.
Et puis il y a votre fille Émilie qui est comédienne, Émilie, et vous avez même joué ensemble sur scène. Elle, d'ailleurs, elle en fait interprétait le rôle de votre fille dans une pièce. C'est assez rare, ça, quand même.
Oui, c'était superbe. C'était l'année dernière au Théâtre de Paris, oui, où il y a deux ans. Ouais, c'était il y a deux ans déjà. Et elle faisait ma fille très agréable. Son père partait un peu en vrille. C'était un personnage. Fort, drôle, une star des médias, une star des plateaux télé, professeur, machin, tout ça, qui partait en vrille, et Alzheimer.
Oui.
Et donc c'était leur rapport, c'était très beau. Très très belle pièce, et c'était agréable. C'est agréable de jouer avec sa fille.
Et justement, moi, en découvrant ça, j'étais surprise, c'est agréable, et en même temps, il doit y avoir, je sais pas, une... Alors je parle pas, bien sûr, de l'éventualité de la maladie, mais pour d'autres raisons, il y a une mise en abîme, jouer comme ça avec son enfant, tout à coup, la scène de théâtre prend une autre dimension.
Ben, pas vraiment, ça devient un personnage comme un autre, sauf, enfin un personnage, c'est une actrice qui joue un personnage, donc c'est une manifestation courante, classique, sur une scène, sauf comme c'était ma fille, on jouait à fond, hein, mais j'étais plus attentif, en coulisses, on me disait, tu crois que là j'aurais pas dû faire, tu vois. Puis il y a une espèce de complicité énorme entre nous, quoi, irremplaçable.
Alors, cette pièce que vous avez jouée avec Émilie, ça nous ramène bien sûr à cet univers qui est vraiment votre creuset, le théâtre. En fait, Patrick Chesnais, plus la société est contrôlée par l'informatique, donc par la dématérialisation, plus le théâtre s'avère indispensable.
Oui, le théâtre, le spectacle vivant, oui, bien sûr, oui, puisque... Et on se rend compte d'ailleurs qu'il y a un besoin... Une envie et un besoin des gens de voir des gens en chair et en os sur scène, des chanteurs, des rockers, des danseurs, des acteurs. Voilà, alors même si le cinéma est un art magnifique, etc., c'est quelque chose qui est mis en boîte quand même, qui est, voilà, et que tous les gens voient en même temps sur les écrans du monde entier. Là, c'est une fois en même temps, un spectacle ne ressemble jamais à un autre.
Ouais,
le lundi,
c'est plus un
le spectacle n'est pas le même que le mardi. Chose
le théâtre
changé.
Est davantage un rendez-vous.
Oui, en fonction des gens qui sont dans la salle, en fonction de nos humeurs aussi, en fonction de ce qu'on a vécu dans la journée, quelque chose est particulier. C'est un rendez-vous.
Vous êtes au Théâtre de la Madeleine à Paris, où vous jouez L'Invitation, une comédie d'Adrien Racah. On vous retrouve tout de suite pour cette balade sur Europe 1 cet après-midi.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Patrick Chesnais, il paraît que le temps qui passe est devenu chez vous une phobie. Vous dites, le temps c'est une balle de revolver, on se fait tirer dessus tous les jours. C'est pour ça que vous multipliez en permanence les projets ?
Oui, je crois que il faut faire vite, il faut engranger pendant qu'on a encore des moyens. Voilà. Et puis d'autre part, c'est, je dirais que c'est un divertissement dans le sens de Pascal, dans le sens fort.
Oui.
C'est-à-dire que ça empêche de faire des activités artistiques, enfin beaucoup d'activités, empêche de penser aux choses qui fâchent. Les choses qui fâchent, et ben voilà, tout le reste, quoi. Enfin, il y a des choses dans la vie qui sont bien aussi, mais l'homme a tendance à penser à sa propre condition, sa propre précarité, au deuil, aux gens qui l'entourent, qui ne sont plus là, etc. Et voilà, le fait de travailler, de tourner, de jouer devant des gens efface tout ça.
Est-ce que tourner pour le cinéma, un Don Quichotte moderne, reste un projet qui vous tient vraiment à cœur?
Ah oui, ça j'aimerais bien le faire un jour, oui. Mais j'ai déjà fait Don Quichotte en tournage.
Pour Arte, hein, la télé.
Pour Arte, ouais. Oui, c'est ça. J'avais adoré ça. On avait tourné d'ailleurs dans la Mancha, en Espagne et tout. C'était une aventure incroyable. Et j'aimerais bien le faire pour le cinéma, trouver le moyen de faire une adaptation qui tienne la route, parce que c'est une compilation. Hein. Don Quichotte, c'est énorme. Hein.
C'est un projet plus qu'ambitieux, voilà. Oui. Ouais. Ce qui vous fascine particulièrement dans ce personnage, c'est...
Et c'est à la fois sa révolte et son innocence. C'est un cœur pur, c'est un homme un peu âgé, qui a une espèce de pureté, mais il est fou.
Il vous ressemble.
Trop d'émotions l'auraient brisé, si je veux dire.
Il vous ressemble.
Je ne sais pas s'il me ressemble, en tout cas, je sais que je peux bien le faire.
Terry Gilliams avait eu une expérience malheureuse, hein, d'un tournage de Don Quichotte avec Jean Rochefort et Johnny Depp. Le film n'a jamais pu être achevé. Donc Don Quichotte, c'est un rêve magnifique, mais c'est un rêve un peu maudit au cinéma.
Oui, effectivement. Oui. Il y a quelque chose avec Don Quichotte qui est marqué du saut de voilà, pas du malheur, le terme est grand, mais enfin quelque chose qui cloche à chaque fois, quoi. Sauf le dernier, justement, Terry Gilliam, que j'ai vu, qui est l'esprit de Don Quichotte. C'est pas l'histoire de Don Quichotte, c'est l'esprit de Don Quichotte. C'est un regard, une folie sur Don Quichotte. Mais créé et accompagné dans une histoire des deux personnages, Don Quichotte et Sancho Panza, ça doit être assez compliqué, mais si on réussit son coup, ça peut être grand.
Grand, dit-il. Bon, en attendant, Patrick Chesnais, votre carnet de balles, de quoi est-il rempli en 2021? Je crois savoir qu'il y a le projet d'incarner Laval, n'est-ce pas?
Oui, alors ça c'est pas Don Quichotte tout à fait.
Non.
Hein. Et ben on commence dans 15 jours, hein, donc dans 3 semaines, donc voilà.
Mais alors comment allez-vous faire, parce que vous tournez à Vichy et vous êtes tous les soirs sur la scène du théâtre de la Madeleine à Paris.
J'arrête de jouer au théâtre et je reprends après.
D'accord.
C'est des deals qu'on avec la production, tout ça. On s'arrange comme ça, j'ai joué un peu plus longtemps. Tout ça. Oui, pour jouer Laval, oui. Ça. Moi, j'adore les biopics. Et puis, j'adore aussi les personnages dits monstrueux, enfin, ou en tout cas, qui sont perçus comme ça, et qui sont, malgré tout, des gens qui ont une femme, des enfants, qui ont aimé, qui ont...
Donc, Laval, Premier ministre de Pétain pendant la guerre, vous allez tourner à Vichy, après avoir incarné De Gaulle, c'est ça le côté absolument magistral des castings, vous incarnez Laval.
Oui, ben voilà, j'incarne Laval et je me réjouis d'incarner, non pas pour le réhabiliter, mais pour donner cette dimension humaine que tous les gens ont, dimension humaine, c'est un mec... voilà, je pense qu'il a fait des erreurs politiques monumentales. Je ne cherche pas à l'excuser du tout. Hein. Mais quand on se penche sur la vie de quelqu'un et sur les injustices qui lui ont été faites, sur les erreurs monumentales qu'il a faites, même sur cette facilité qu'il a à collaborer avec les Allemands quand même, hein, c'est pas... quand on se penche sur sa vie, sur son parcours, on ne peut pas s'empêcher d'être... touché, c'est peut-être pas le mot, mais d'être interpellé, de s'interroger, de voilà, sur un type qui parle de l'extrême gauche et qui arrive après quasiment à l'extrême droite. Donc toujours pareil, c'est question de l'extrême. Et puis voilà, ces ambitions politiques, c'est faut avoir de l'ambition pour arriver à ce. Il est parti de maire, après député, après ainsi de suite, ministre des Affaires étrangères, etc., etc. Ce type qui est un peu de la France profonde, on va dire, qui était bien chez lui à la campagne avec ses copains paysans, hein, au milieu des vaches, qui aimait bien boire des coups avec des copains, etc. C'est un être humain.
Ce sera pour le cinéma, ce Laval,
non, c'est pour
la
France
télé.
2. C'est pour France 2.
Pour France 2, ouais. Très bien, très bien. Patrick Chesnais, choisir, c'est renoncer. Il paraît que vous avez un mal fou, en fait, à choisir parmi les scénarios qu'on vous envoie. Oui. Choisir donc celui dans l'univers duquel vous vivrez pendant 2-3 mois de tournage.
Oui, oui, non, mais j'ai un grave défaut au milieu de... Enfin, peut-être... J'hésite. C'est affreux, hein. C'est un défaut terrible, l'hésitation. J'hésite.
Alors, au final, c'est votre épouse, Josiane Stoléru, qui...
Non.
Non, ça se passe comment ?
Elle peut m'aider à choisir, elle peut mettre de très bons conseils, elle met toujours de très bons conseils, mais...
Puisque c'est une formidable comédienne.
Oui, 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 et puis une femme formidable. Mais je me donne toujours le temps de la réflexion et je passe par toutes les stades de l'hésitation, les allers-retours, jusqu'à ce qu'enfin, un matin, la lumière se fait. Mais c'est une torture.
Bon, en tout cas, l'aventure actuelle, c'est celle d'une comédie qui fait vraiment jaillir les rires au Théâtre de la Madeleine à Paris. Elle a pour titre L'Invitation et vous êtes cerné par Philippe Lellouche, absolument irrésistible, et Estelle Lefébure, glamour à souhait. Qu'a-t-on oublié de se dire d'important au sujet de cette pièce ?
D'important, je ne sais pas. Je crois que ce qui est important, ce qui m'est apparu hier en la jouant, c'est que c'était la force comique. C'est bien d'être pendant une heure et demie dans une force comique irrésistible, de se sentir porté par ça et que les gens prennent ce plaisir-là très très fort. Quoi. Voilà. C'est ce que je dirais pour conclure.
Eh bien, j'en étais et je confirme. Je vous dis à très très bientôt.
Excellent
tournage parce que voilà, ils vont se succéder tout au long de 2021. Et puis rendez-vous, en tout cas en ce moment, chaque soir au Théâtre de la Madeleine à Paris pour l'invitation.
Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.
Et tout de suite après l'info, on retrouve Stéphane Bern et Mathieu Noël pour 2 heures désopilantes grâce à Historiquement Vôtre. Europe 1.